Je vais vous laisser d'ailleurs vous présenter. Et au-delà de... Je propose qu'on procède de la manière suivante, finalement. Au-delà de l'introduction qu'a fait Yves, peut-être de dire le regard que vous portez, vous, aujourd'hui, sur les PEDT. Et puis, les perspectives, d'une certaine manière, qui sont aujourd'hui nécessaires pour, comme vient de le dire Yves, un développement qualitatif des réponses éducatives. On a réussi le quantitatif. C'était pas compliqué parce que sinon il n'y avait pas les financements. Mais maintenant, comment on essaie finalement d'améliorer les réponses éducatives qui sont apportées? Monsieur Engel, peut-être? Et je vous ai pas présenté, donc vous allez le faire mieux que moi.
D'accord. Bonjour. Voilà, donc je suis Marc Engel, je suis chef du bureau de la protection des mineurs en accueil collectif et des politiques éducatives locales à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative qui dépend du ministère chargé de la jeunesse. Donc pour revenir pour deux chiffres, préciser deux chiffres auxquels M. Jacquemin faisait référence, avant la réforme des rythmes scolaires, on est à environ 900 000 places qui sont proposées dans les accueils collectifs périscolaires. Après la réforme des rythmes, on est à 3 millions. Donc on est plus d'un triplement. Et un autre chiffre qui peut aussi vous intéresser. Actuellement, les chiffres sont de 2014-2015, mais les choses n'ont certainement pas beaucoup bougé. On a 63% des organisateurs d'accueil de loisirs périscolaires qui sont des communes, enfin, communes ou EPCI, et 36% qui ont le statut d'association. Bon, pour autant, ces 36%, vous vous en doutez, ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement extérieures au PEDT, au contraire, elles sont pleinement intégrées. Pour autant, le statut juridique, c'est le statut d'association.
Mais il y en a 31 000, je crois, aujourd'hui, alors qu'il y en avait 17 000, enfin, de mémoire, hein, parce que, voilà, donc finalement, 36% de 31 000, ça fait un stock, je vais dire, de 10 000, si, à peu près. Et je crois qu'il y a quelques années, on était à 50-50. Donc, si on était à 50-50 quand on était à 17 000, on a gardé, voire même on a légèrement développé le nombre d'associations. Mais pour autant, effectivement, c'est les collectivités locales qui représentent le pourcentage le plus conséquent.
Vous avez raison, précisément, le nombre d'associations a encore progressé. Mais comme la dynamique est tellement importante que globalement, on a plus d'autres acteurs. Voilà sur les chiffres bruts. Sur la question des rythmes éducatifs et des PEDT, c'est un sujet qui n'est pas récent, ni pour le ministère chargé de l'éducation nationale, auquel je parle, dont je parle, mais qui n'est pas présent, mais avec qui j'ai eu, comme le disait M. Fournel, un échange récemment. Et donc, et le ministère de la Jeunesse, la question donc de la réforme des rythmes n'est pas une nouveauté. On peut faire référence, on y fait toujours référence, mais on a bien raison, à la circulaire Calme-Achevènement de 1984, d'autres textes, dont la circulaire Bambuc, et plus récemment, la mise en place des CEL. Donc on voit bien que la question d'avoir quelque chose d'un peu de global sur le territoire et de qualitatif est quelque chose qui hante les esprits depuis longtemps, à juste titre. La différence qu'on peut voir de notre point de vue sur ce qui se faisait auparavant et sur ce qui se fait maintenant, c'est qu'on est, on est passé sur une généralisation et sur une application sur tout le territoire. Quand on avait des projets auparavant, si on prend le cas des CEL, on les trouvait ici ou là, heureusement assez souvent. Pour autant, avec les PEDT, on est passé sur une véritable généralisation, une présence sur tout le territoire. Avec la volonté de prendre en compte les différents temps de l'enfance, qu'on faisait aussi, et également le souhait d'adapter l'offre éducative qui était proposée au sein d'un territoire. Concrètement, cette généralisation s'est appuyée sur une modification du code de l'éducation qui a inscrit le PEDT comme véritable outil collectif sur la question de l'éducation et dans un cadre collectif et territorial. Également la réforme des rythmes scolaires qui a eu lieu par décret. Autre chose très importante, c'est l'effort financier qui a été consenti par l'État, plus de 2 milliards depuis 2013, et par la CNAF, donc 1,2 milliard, donc des chiffres qui sont quand même conséquents. en faveur de l'éducation. Et donc, et en même temps, donc, on voit très bien qu'on a eu cette organisation qui a été imposée par l'État, mais en même temps, on a vu que le PEDT pouvait constituer un outil intéressant, parce que bizarrement, de notre point de vue, alors que c'est d'abord une réforme des rythmes scolaires, on a très vite parlé des rythmes éducatifs et du périscolaire. C'est-à-dire que la question pour les familles, pour les communes, pas pour les enseignants, mais la question pour la majeure partie des acteurs, c'est la question du périscolaire, alors que la réforme est d'abord une réforme des rythmes scolaires. Et donc le rôle du ministère chargé de la jeunesse, c'est un rôle d'accompagnement des politiques, d'accompagnement des acteurs en faveur du développement des politiques en matière éducative locale. Donc pour ce faire, je vous l'ai déjà dit, il y a ce levier financier, le levier réglementaire. Globalement, on n'a pas eu, alors qu'on a 3 millions d'enfants accueillis, on n'a pas eu une explosion des garderies, au contraire. Donc on a eu un cadre qu'on considère de qualité, c'est-à-dire qu'on a un contrôle de l'honorabilité des personnes qui interviennent en accueil de loisirs, ce qui n'est pas le cas des garderies. On a quand même une diversité d'activités proposées, ce qui n'est pas le cas dans les garderies. Enfin, je ne fais pas l'apologie des accueils de loisirs. Et donc, on a souhaité ces deux choses, qualité éducative et sécurité des mineurs. Une volonté aussi d'accompagner les collectivités, dans les collègues qui sont dans les directions départementales de la cohésion sociale. Et on trouve des référents sur ces questions, les questions éducatives et les questions de réforme des rythmes dans chaque département et parfois même au niveau régional. Et également la mise en place d'un réseau interministériel qu'on appelle au niveau départemental, qu'on appelle les groupes d'appui départementaux, qui sont là pour accompagner les collectivités dans la mise en place du PEDT. Et on le verra un peu après, mais je crois que vous en avez déjà parlé, sur le renouvellement des missions des GAD, et notamment en matière de formation des personnels. Donc pour en arriver à votre question, qu'est-ce qu'on veut faire ? Donc le constat, on l'a ici. Donc les perspectives, c'est pour savoir ce qu'on veut faire et pour précisément mettre en place des politiques adaptées, il nous faut évaluer le dispositif. Donc cette évaluation, ça repose sur une évaluation qui est d'abord nationale, donc qu'on a souhaité dans un cadre collaboratif avec bien sûr l'éducation nationale, mais également les mouvements d'éducation populaire, la CNAF, enfin, je ne vais pas citer l'ensemble des acteurs, le CAP, enfin un certain nombre d'acteurs qui sont concernés et qu'on a souhaité solliciter. Donc, on a fait interroger les collectivités. Donc l'étude est actuellement en cours, elle a été lancée en septembre et globalement elle se terminera au printemps prochain. Et donc l'idée, c'est de mettre en place cette évaluation, donc une évaluation qui sera, avec le questionnaire qui a été transmis récemment, qui sera et quantitative et qualitative. Donc quantitative sur un nombre très important de communes, et on a des retours assez importants, et également qualitative sur un certain nombre de départements. Je cite par exemple de mémoire les Vosges, le Val-d'Oise ou également la Haute-Garonne, mais il y en a d'autres. Et donc, solliciter concrètement les départements, solliciter les communes, pardon, solliciter concrètement aussi les services de l'État qui sont regroupés dans les GAD, et également avoir un bilan pour avoir une vision distanciée. C'est-à-dire qu'on a fait appel à deux cabinets qui ont été missionnés sur ces questions et qui sont spécialisés sur ces questions éducatives. Et avec eux, on a souhaité pouvoir avancer sur ces sujets. Et donc, l'étude est actuellement en cours. Donc, l'idée qu'on a et dans les objectifs de l'étude, c'est d'avoir de pouvoir faire ressortir les dynamiques qui se mettent en place au niveau des territoires, voir quels sont les processus éducatifs qui sont à l'œuvre. La question aussi des nouvelles pratiques, des nouveaux métiers, voir comment aussi qu'est-ce que les communes ont souhaité mettre en place en termes d'activités et en termes de personnel qui sont utilisés pour mettre en place ces activités. et voir également, bon, il ne s'agit pas de faire une hagiographie de la, même si de notre point de vue c'est une bonne réforme, pour autant on souhaite avoir quelque chose de et distancié et critique pour pouvoir être encore meilleur dans l'accompagnement des communes. Et donc, quelles sont les perspectives qui pourront avoir lieu et qui pourront exister pour les porteurs de PEDT. Donc, on souhaitera, par la suite, on pourra définir un certain nombre de préconisations et donc, pour savoir, comme je vous le disais, comment accompagner les différents acteurs. Donc, pour nous, l'objectif, c'est de relever le défi de la consolidation. On a une généralisation des PEDT, on peut s'en féliciter, on s'en félicite. Pour autant, je pense que vos journées l'ont montré, la situation sur le territoire n'est pas complètement homogène et on n'a pas une qualité globale. Pour autant, on souhaite accompagner, aller plus loin, parce qu'on pense qu'il y a encore des possibilités qui existent pour améliorer cette qualité. L'accompagnement qu'on peut mettre en place et qu'on a déjà mis en place, c'est deux groupes de travail au sein du ministère chargé de la jeunesse pour accompagner donc et pour suivre la question des intervenants sur ces accueils. Donc concrètement, il y a deux groupes de travail. Un groupe de travail qui s'intéressera plus à la question de la professionnalisation des métiers, comment travailler avec les collectivités à développer la formation de ces personnels, et un autre groupe de travail qui sera plus général et qui concernera l'intégration de ces personnels au sein de leur territoire. Comment faire en sorte que les animateurs, les directeurs d'accueil soient réellement partie prenante du projet qui se met en place, parce qu'on pense que ça fait partie globalement bien sûr de leur implication, mais aussi de la qualité éducative qu'on pourra trouver. Donc l'idée aussi, c'est qu'on voit bien, hein, les communes ont eu recours à différentes possibilités pour mettre en place des activités, les associations aussi. On n'est pas toujours, on s'en doute, sur des CDI à plein temps, avec des rémunérations dithyrambiques. C'est un fait. On a aussi un certain nombre de personnes dont ce ne sera pas forcément le métier. Donc il faut voir un peu comment faire, comment accompagner les différents acteurs sur le terrain. On a aussi un travail qui est mené au sein des directions départementales afin de mutualiser les ressources qui existent. On a des choses assez intéressantes qui se mettent en place. Je ne vais pas vous citer l'ensemble des exemples, mais dans les départements, il y a des choses intéressantes sur des malles pédagogiques, des forums départementaux, ou également des salons qui sont mis en place. Il y a des salons qui ont été développés. Et donc, voilà, ça fera partie des projets qu'on aura encore. Avec l'éducation nationale, plus précisément, on a lancé un site qui s'appelait pedt.gouv.fr, qui est relativement bien connu, qui a rempli sa mission. Mais désormais, comme on est plus dans une volonté d'augmenter la qualité, on sera aussi plus sur un site qui sera complètement renouvelé, réaménagé dans les semaines qui viennent. Donc l'objectif du PEDT, de notre point de vue, c'est de pousser à la mise en place d'un cadre partenarial qui permet aux différents acteurs éducatifs de se connaître, de se rencontrer, de se concerter, ce qui heureusement existe déjà sur le terrain, mais ce qui doit se faire de notre point de vue encore plus qu'auparavant, pour arriver à vraiment mettre en place une cohérence éducative. Et donc sur la question plus précisément de la formation, nous pensons qu'il faut développer dans un cadre collaboratif les formations. On sait que dans certains cas, on a des choses intéressantes qui se font même avec des SP entre les services, les associations, les SP, concrètement les enseignants, enfin bon, bien sûr. Et donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Elles n'ont pas encore essaimé sur l'ensemble du territoire, mais ici ou là, on voit des choses qui se développent. Et donc nous, on accompagne ces dynamiques qui se mettent en place. On souhaite aussi développer des formations dans le cadre de ce que fait le CNFPT, qui est un acteur reconnu quand même, globalement et bien sûr pour les collectivités, mais qui lui aussi, quand on a échangé avec lui, nous a expliqué que certes les communes payent des contributions, mais ne voient pas toujours l'intérêt de former parce qu'ils ont les qualifications réglementaires Et donc ils se disent, moi je remplis les conditions, mais la question se pose encore. Et donc notre objectif aussi, c'est donc de retravailler sur les missions des GAD. Je crois que vous avez parlé de la circulaire qui a été publiée il y a peu de temps entre les ministères chargés de la jeunesse et le ministère chargé de l'éducation nationale. Donc l'objectif, c'est de redynamiser ce qui est fait au niveau des GAD, qu'ils soient tous dynamiques et qu'ils se mettent aussi au diapason de ce qui se fait sur le territoire, c'est-à-dire des territoires plus ou moins avancés. Merci.
Merci. Peut-être avant de passer la parole à M. Fraisse, une question, notamment sur la question des emplois. Enfin, une question, une remarque, une analyse. Damien Berthillier, tout à l'heure, a évoqué la question des taux d'encadrement. On comprend bien qu'il y a eu la pression des collectivités sur les taux. Je m'autorise à le dire de cette manière-là, mais parce qu'on débat. Pour aller plus loin, il faut toujours poser les trucs, et puis après, on essaie d'aller un peu plus loin. Donc on comprend bien que, bien sûr, si on veut réussir la politique au regard des contraintes économiques, on est obligé de faire des choix de ce type. Moi, je le dis de cette manière-là. Donc c'est pas totalement insupportable le fait d'avoir desserré les taux, à la condition que la politique de formation qui se met en œuvre soit une vraie politique de formation. Alors on entend dans ce que vous dites que, bien sûr, ça décloisonne, on parle au CNFPT, il faut aussi parler très certainement au syndicat d'employeurs de la branche, mais ça je sais que vous le faites aussi, et il faut mettre en perspective, je sais pas, un plan Marshall de formation des animateurs, et ça m'amène à la question. On est un système dérogatoire. Je me permets de vous la poser parce que je sais qu'elle est réfléchie. Hein. C'est pas un piège. Non, mais on sait qu'il y a un système dérogatoire aujourd'hui pour la direction des accueils collectifs de mineurs de plus de 80 jours, plus de 80 enfants. Est-ce qu'on va entériner le dérogatoire? Est-ce qu'on va contraindre à la formation? Ben voilà. Est-ce qu'il y a des éléments de réflexion aujourd'hui sur cette question-là au ministère?
Alors. Sur cette question du 80-80, qu'on appelle 80-80 dans notre jargon.
C'est clair pour tout le monde, 80-80, ou c'est pas clair? Non. C'est pas clair. Ben, c'est-à-dire que la réglementation dit que pour diriger un accueil collectif de mineurs qui fonctionne plus de 80 jours, avec plus de 80 enfants, il faut avoir un directeur qui ait un diplôme professionnel. Pour répondre au développement des 31 000, on n'avait pas les 31 000 directeurs à mettre en face. Donc on a dérogé en permettant aux directeurs, avec un BAFD, d'assurer la direction. Mais une dérogation limitée dans le temps. Donc comme on évoque les questions de formation derrière, on fait le lien et on se dit, mais comment on va aller pour avoir une politique de formation efficace qui permette de sortir de là ? On laisse M. Engel répondre et puis bien qu'on revienne après sur le taux d'encadrement. Hein? Non, mais parce qu'il y a quelque chose à gagner là, alors que sur le taux d'encadrement, on a déjà perdu.
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas y revenir. Hein, mais...
Sur la dérogation, donc, comme vous le disiez, donc on est sur un... C'est pas le cas sur les taux dans un premier temps. On était sur un dispositif expérimental. Ici, sur la possibilité de déroger, on est sur un cadre dérogatoire et donc qui prendra fin à la fin de cette année 2016. Et donc l'idée, c'est qu'on se dit, on ne peut ni mettre fin à l'obligation de qualification professionnelle pour diriger ces accueils, et en même temps, on voit très bien que si jamais on laisse la qualification professionnelle, c'est-à-dire on laisse le texte disparaître et on ne prend rien, un certain nombre d'accueils ne rempliront plus les conditions et donc les communes se poseront la question de remettre en cause ces accueils. Donc au niveau rural, dans certaines communes, les communes qui sont rentrées tardivement, certaines très très grandes communes du sud de la France, on sait qu'il y aura certainement des difficultés. Donc Notre objectif, c'est en concertation avec les différents acteurs, mouvements d'éducation populaire, association des maires de France, branches professionnelles, organisations syndicales, notamment, avec ces différents acteurs, notre objectif, c'est d'enclencher une dynamique et de voir ce qu'on peut faire. Et donc, on doit trouver un dispositif qui ne mette pas fin à la dérogation, qui permette de poursuivre la dérogation, mais qui permette aussi d'enclencher la question de la professionnalisation. Et donc, c'est un peu la quadrature du cercle, mais c'est un peu notre objectif. C'est-à-dire, on ne sera pas dans un schéma ou un autre comme ça. On sera plutôt dans un schéma où on va continuer, on ne pourra pas y mettre fin. Pour autant, pas uniquement en termes de messages, mais aussi en termes de volonté de notre part, de volonté des acteurs, des différents acteurs, il faut enclencher la question de la professionnalisation. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place des groupes de travail dont je vous ai parlé. Et donc, on sera assez vigilant pour savoir ce qu'il faut faire. Mais en même temps, le temps nous est compté. On sait très bien que dans quelques semaines, les premiers accueils qui ont bénéficié, les premiers directeurs qui ont bénéficié de dérogation, leur mandat avec cette qualification tombera et donc se posera la question de la survivance même de cet accueil. On sait aussi, c'est pour ça que c'est pas simple, on sait aussi que certains directeurs avec un BFD sont de bons directeurs. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de qualification professionnelle qu'ils sont pas bons. Ils peuvent avoir d'autres expériences professionnelles et si on les a nommés, c'est que globalement ils font l'affaire entre guillemets. Donc, et en même temps, comment est-ce qu'on peut faire pour... ils vont pas tous avoir un BPJEPS, qui est le diplôme de jeunesse et sport un peu phare sur cette question, LTP au bout de 5 semaines. Donc l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faciliter la transition entre diplôme non professionnel et diplôme professionnel. Comment est-ce qu'on peut avoir des accompagnements de la part des collectivités. Donc concrètement, ça peut se mettre en place. Et comment se passe cette transition, comment financièrement aussi, bien sûr, dans un cadre contraint. Mais je pense que confiance, c'est peut-être un peu fort, mais je pense que les acteurs, collectivités et associations sont quand même très conscientes des enjeux et de l'intérêt de la professionnalisation. Après, outre le prix, il y a aussi la question du remplacement de ces personnels quand elles sont absentes. Donc c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille.
Voilà, si on prend les chiffres de tout à l'heure, il y avait 17 000 accueils, il y en a 31 000, il y a 14 000 directeurs, on ne forme pas 14 000 personnes du jour au lendemain, etc. Mais je pense qu'on a tout l'armada pour faire un effort dans les deux ans. On peut continuer à déroger à la condition que l'organisateur s'engage à former professionnellement. Ceux qui sont des bons directeurs, on peut les aider à faire de la VAE. Enfin, je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions. Il faut surtout pouvoir donner un signe. Quoi. Je crois que c'est le signe que l'on va donner qui va avoir de l'importance. Je sais que vous avez demandé la parole. C'est sur cette question particulière. Alors, est-ce qu'il nous reste... on a les trois et après, on va donner la parole à M. Fraisse.
On a les trois, Yves. Merci. Oui, ma question portait sur la fonction publique territoriale et notamment la filière animation. Parce qu'aujourd'hui, enfin, il y a eu un rapport qui est sorti là au printemps, que je trouve fort intéressant. Mais aujourd'hui, cette filière monte en puissance hein, avec la réforme. On n'a que des catégories C et des catégories B. On n'a pas de catégorie A. Pour passer en catégorie A, il faut passer soit administratif, soit... Enfin bon, voilà, je trouve que c'est très insuffisant. Et par rapport aux catégories C, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que des gens sont en situation d'encadrement, pas d'encadrement d'enfants, mais de personnel, et du coup, elles devraient être en catégorie B. Enfin, on a une dévalorisation globale de cette filière, et est-ce qu'il est prévu de la réviser, quoi?
C'est compliqué. C'est une question qui relève donc de la Direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur avec qui on échange. Quand on leur parle du rapport que vous évoquez, ils nous disent que c'est un rapport élaboré dans le cadre du Conseil supérieur dans lequel l'État ne siège pas, ce qui veut dire par là que l'État ne valide pas forcément le rapport. Enfin, ne valide pas ni ne valide pas ce rapport puisqu'il est extérieur. Mais ça fait partie des discussions qu'on a lancées pas sur la revalorisation, parce que ce n'est pas quelque chose qui dépend de nous, mais sur... Ils suivent les différents groupes de travail qu'on a lancés. Ils ne sont pas partie prenante directement, mais ils suivent ça. Et donc, on leur a fait savoir, et ils le savaient avant nous, le cadre que vous fixez. Et on se retrouve avec des personnes, parfois, qui ont des grosses responsabilités, une reconnaissance qui ne correspond pas aux responsabilités qu'ils ont. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire, plus.
La seule chose qu'on peut dire, c'est que ça réactive cette problématique, qui est une problématique qui date un peu déjà aujourd'hui, mais forcément, dès l'instant où on aura, et dans la fonction publique et dans le privé par les associations, la nécessité d'intervenir, il va falloir à un moment retravailler globalement sur ces questions-là. Monsieur Fraisse, un peu la même question que celle que j'ai posée tout à l'heure à monsieur Engel. Il y avait une question, une autre ? Ah, alors on la prend. Excusez-moi, hein, monsieur.
Non, il n'y a pas de souci. C'était vraiment sur les équivalences des diplômes. Est-ce qu'il y a vraiment un travail qui va être engagé sur l'équivalence des diplômes, par exemple, dans le monde associatif, avec tout ce que les fédérations peuvent proposer, par exemple, comme initiateur, entraîneur, avec le fait qu'ils puissent intervenir dans les accueils de loisirs. Je prends un exemple vraiment tout simple. Un initiateur, par exemple, kayak, activité très particulière, mais activité kayak, il ne va pas pouvoir intervenir... en tant qu'animateur déclaré comme un BAFA, alors qu'un animateur BAFA qui n'a jamais touché un kayak de sa vie va faire un perf kayak d'une semaine et on va lui donner l'autorisation d'encadrer comme un animateur diplômé. Mais ça, c'est un exemple que je peux prendre. Je pouvais prendre aussi par rapport aux dumistes à l'époque où, dans le cadre de leur activité principale, ils peuvent encadrer des groupes d'enfants et encadrer de la musique, et on était obligé de les déclarer comme non diplômés quand ils intervenaient dans le milieu périscolaire, ce que je trouve dommage, alors qu'ils encadraient leur activité on va dire de prédilection. On parlait tout à l'heure effectivement de former 14 000 directeurs, ça me paraît très compliqué, mais je pense que il y a beaucoup d'animateurs hors périscolaire qui sont diplômés. Et je pense que ça peut être un des leviers pour correspondre aux critères, entre guillemets, jeunesse et sport, entre le ratio qualifié et non qualifié. Quoi.
Pour le dire rapidement, peut-être tout le monde ne le sait pas, dans un accueil collectif de mineurs, il y a 80% de personnes qui sont qualifiées ou en cours de qualification, et on a 20% de personnes qui ne sont non qualifiées. Ce chiffre peut être inférieur, bien sûr. Actuellement, on a 70 titres et diplômes qui permettent d'exercer comme animateur et directeur qualifié. Donc, c'est déjà, on a un nombre très important de diplômes, avec beaucoup de diplômes de l'éducation nationale, mais pas uniquement. On a récemment rentré un certain nombre de diplômes, des licences professionnelles, les masters MEF qui permettent de devenir enseignants. On a des demandes pour faire rentrer d'autres corps de la fonction publique territoriale. Mais on souhaite, à court terme, en tout cas, on ne souhaite pas aller au-delà de ce qui est déjà proposé. Je comprends très bien ce que vous dites. On a un certain nombre d'acteurs qui ont des compétences. Et donc, pour faire rentrer un diplôme, on regarde deux choses. La question de la sécurité. Est-ce que la personne est-ce que le diplôme et la personne qui dispose du diplôme ont des compétences en matière de contrôle, d'encadrement des mineurs, et en même temps la question de la pédagogie aussi, qui est ce qui nous a permis de rentrer ces diplômes dont je vous parlais, de l'éducation nationale. Mais à court terme, on n'a pas idée d'ouvrir encore plus le champ que ça. Mais ça fait partie, on a dans d'autres champs encore, il y a des interrogations qui existent, et la vôtre est légitime.
Merci. Cette fois, je vous propose qu'on passe la parole à monsieur Fraisse, parce que le temps sinon va se réduire, et je pense qu'il est aussi important d'avoir le point de vue du commissariat général à l'égalité des territoires. Alors, sur une politique publique finalement qui s'est développée, dans laquelle le commissariat n'était pas forcément présent à l'origine, mais qui bien sûr impacte aujourd'hui un certain nombre de territoires sur lesquels vous portez votre attention. Donc un peu la même question, comment vous avez regardé se développer cette politique, et quel défi vous semble-t-il il convient de relever demain, notamment sur une dimension particulière, puisque dans le cadre de ce que vous suivez, vous êtes très attentif à la mobilisation des citoyens, au pouvoir d'agir. Donc est-ce que vous avez des travaux qui ont été conduits sur cette question-là et qui pourraient venir répondre à des questions sur la problématique de la participation, par exemple, qui ont été évoquées pendant ces deux jours?
Très bien. D'abord, merci pour cette invitation, effectivement, puisque autant nous sommes en partenariat avec le POLOC sur la question de l'observation des politiques éducatives et de la réussite éducative, nous n'avons pas été à l'origine de la mise en place de ces projets éducatifs de territoire qui sont pilotés par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Jeunesse et des Sports, même si, dans le cadre de notre partenariat habituel, politique de la ville, bien évidemment, nous avons eu l'occasion à maintes reprises de participer à des travaux que les ministères eux-mêmes avaient pu engager ou que les associations, voulant avoir notre avis, nous sollicitaient. Ça, c'est le premier point, effectivement, que je voulais préciser devant vous. Ce que je voulais préciser aussi, au regard de la façon dont le débat a été posé, enfin cet après-midi, et puis j'imagine un petit peu auparavant aussi, moi j'ai vraiment l'impression que nous sortons, avec des guillemets le sortir, d'une période d'intense réforme, que ce soit celle de l'éducation nationale, la refondation, que ce soit la politique de la ville, somme toute, les derniers contrats de ville n'ont été signés il n'y a qu'un an. C'est vraiment tout récent et donc on est encore dans une période de mise en place de quelque chose de relativement nouveau. Et cette mise en place des PEDT, même si elle a été rapide, effectivement, et de ce point de vue, il faut en féliciter les différents acteurs, les PEDT aussi, le recul aujourd'hui n'est pas si important que ça. Et donc il faut à la fois faire le bilan, ce que vous avez commencé aujourd'hui, de ce qui existe, et puis aussi, bien sûr, tracer ses perspectives. Et donc, la question est bien posée. Pour la petite histoire, demain, à Strasbourg, il y a le même regard qui sera porté sur le programme de réussite éducative, même si le programme de réussite éducative a 10 ans, et donc là, le bilan, déjà, est consolidé. Mais, même question, bilan, perspective... au-delà d'une politique expérimentale, et le programme de réussite éducative a forcément un peu à voir aussi avec les PEDT, au-delà de cette politique expérimentale et de la mise en place de ces plus de 500 aujourd'hui PRE, quel regard on porte et comment on voit l'avenir. Voilà, donc tout ça est bien dans le même mouvement et j'imagine, c'est juste une petite aparté comme ça, les semaines et les mois à venir vont être propices aussi au bilan de l'action des différents ministères. Alors, par rapport à ça, nous, si nous avons travaillé à un sujet en particulier ces dernières années, ça n'a pas été le PEDT en tant que tel, mais ça a été un approfondissement du travail avec l'éducation nationale. Alors moi, je ne suis pas mandaté par la DGESCO, là, mais par contre, je peux quand même, puisque nous étions les deux partenaires sur ce sujet, ça va vous paraître peut-être un peu curieux de présenter les choses ainsi, mais depuis 2012, on a approfondi le travail avec l'éducation nationale. Ça ne veut pas dire qu'auparavant, il n'y avait rien, ça ne veut pas dire que l'on partait d'un terrain vierge, bien sûr que non. Il y avait déjà des actions, il y avait déjà des dispositifs, il y avait déjà quelques objectifs communs, mais on était quand même à quelque chose d'un petit peu disparate et qui n'était pas consolidé. Et les deux réformes mises en place au même moment, celle de l'éducation nationale d'une part, celle de la politique de la ville d'autre part, nous ont permis de travailler ensemble, en commun, de façon plus approfondie. Et donc, à partir de là, au-delà notamment, et ce n'est pas qu'anecdotique, vous le comprendrez, par exemple, d'une meilleure concordance des géographies prioritaires, celle de l'éducation prioritaire et celle de la politique de la ville, qui a été le premier véritable chantier qui a été mené dès 2013, nous avons pu, par exemple, consolider un certain nombre d'objectifs communs. Donc je peux citer ici, qui est de promouvoir la mixité sociale, qui est de réduire les écarts de réussite scolaire au regard des résultats actuellement observés, de réduire le nombre de décrocheurs, d'améliorer le bien-être des enfants et des jeunes, et d'assurer la participation des parents. Comme ça, je pourrais venir sur votre question. Et alors, ça paraît évident aujourd'hui de dire ça, que nos objectifs sont communs, ces 5 objectifs sont communs des deux ministères, mais avant 2012, on ne l'aurait probablement pas posé ainsi. Et donc, ce travail, il a été mené, étant entendu qu'après travail administratif, alors je fais l'impasse bien évidemment sur le travail législatif, le travail réglementaire et le travail administratif, mais en même temps, ça a donné la production de nombreux textes. Tout ce travail qui a été mené au plan national, on espère, mais aujourd'hui on n'en a pas le bilan, on espère bien évidemment que ça a eu des répercussions et des répercussions positives sur le terrain en matière de partenariat et en matière de mise en commun entre les réseaux de l'éducation nationale et les réseaux de la politique de la ville d'autre part. Voilà, donc là, encore une fois, je ne suis pas mandaté, mais pour décliner un peu ces grands objectifs en mesures plus précises, des chiffres pourront être produits par l'éducation nationale concernant, par exemple, la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Et ce n'est pas une mince affaire. La scolarisation des enfants de moins de 3 ans, en France, elle va de 90% à Lozère à moins de 10% en Seine-Saint-Denis. Voilà, donc c'est pas quelque chose d'anecdotique. Et donc, l'éducation nationale faisant un effort particulier sur ce sujet, ce n'est pas anecdotique non plus, même si, bien évidemment, que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres, la coopération avec les collectivités locales est absolument indispensable, puisque ouvrir des classes ne signifie pas qu'ouvrir des postes, mais aussi trouver les locaux adaptés, nécessaires et les aménager de façon efficace. Et donc ça, tous ces sujets, si vous voulez, ils ont été notre lot. Et le PEDT, loin de moi de dire que le PEDT, bien sûr, n'était pas important dans ces affaires-là, le PEDT était une question particulière, l'ouverture du périscolaire. Et bien évidemment, j'apprécie le chiffre que mon voisin vient de donner sur la multiplication des activités de ce point de vue. En même temps, nous avons bien sûr ce regard, toujours le prisme politique de la ville. Je dirais, parce que peut-être que vous-même, vous auriez un peu cette tendance à vous dire, mais est-ce que la politique de la ville peut participer au PEDT? Et là, je retourne la question, et est-ce que les PEDT participent à la politique de la ville? Voilà. Et c'est bien la façon dont aujourd'hui les choses sont présentées, puisque notre directeur, par exemple, Ville et Cohésion Urbaine, a l'habitude de dire qu'aujourd'hui, la politique de la ville, en fait, c'est la somme des politiques publiques. Alors avec, bien évidemment, à côté quelques crédits que l'on a et qui, d'ailleurs, sincèrement, alors on n'a probablement pas été les moins gâtés, puisqu'ils se sont maintenus bon an mal an sur les 5 dernières années. Donc ça nous a permis d'accompagner autant d'acteurs et de publics que dans la période précédente, avec une répartition néanmoins différente, puisque vous le savez, la géographie prioritaire a changé, donc la répartition des crédits a changé, et cela a permis donc de faire une autre, comment dire, d'avancer d'une façon différente.
Merci, Monsieur Fraisse.
Une introduction un peu générale. Oui.
Mais parce que ce que vous venez de dire amène une question. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, parce que vous évoquez la géographie prioritaire. Donc, vous évoquez le fait que vous avez eu une analyse particulière des besoins éducatifs, sociaux et culturels. Et ce qui me semblerait, moi je ne sais pas si c'est la politique de la ville qui est dans les PEDT ou le lycée de Versailles, j'ai envie de dire, mais si on a à travers la géographie prioritaire identifié des besoins éducatifs, sociaux et culturels particuliers, ce serait essentiel qu'on puisse livrer ces informations-là sur les territoires, de manière à ce qu'on adapte les politiques éducatives d'une certaine manière à ces besoins. Ce qui a été fait pour la géographie REP, etc., d'ailleurs, me semble-t-il.
Alors, si je comprends bien votre question, effectivement, la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville a été construite essentiellement sur critères sociaux et sur concentration des difficultés sociales sur certains territoires, étant entendu, mais alors je ne suis pas un spécialiste de cette question, que les critères de l'Île-de-France n'ont pas été tout à fait les mêmes que les critères du reste de la France, puisque l'Île-de-France est toujours particulière à cet égard, sur les salaires, enfin, etc. Et en mettant aussi des seuils en termes de concentration. Par exemple, il n'y a pas de communes en politique de la ville dont le nombre d'habitants est inférieur à 10 000. Voilà, parce que sinon, effectivement, ça multipliait le nombre des communes et ça multipliait le nombre des quartiers, ce qui fait qu'au lieu d'un resserrement de la géographie prioritaire, ce qui était recherché par le ministère, et ce qui a été appliqué, puisqu'on est passé de 2400 à un peu plus de 1500 quartiers prioritaires, si on n'avait pas mis ce seuil de 10 000 habitants concernant les communes et les quartiers entrants, on aurait eu un nombre beaucoup plus important. Voilà. Donc c'est les deux critères essentiels avec l'Île-de-France. Mais ce qu'il faut retenir, voilà, le troisième élément à retenir, ce sont vraiment les critères sociaux qui ont été pris pour base de cette réforme.
Très bien.
Je peux m'autoriser une question ?
Oui, j'en avais deux, mais vas-y, Yves.
Dans les constats qu'on a faits depuis hier et dans les travaux qu'on a pu mener jusqu'à maintenant, a été posée la question, le PEDT un dispositif de plus ou un moyen de faire converger et les acteurs et les politiques publiques concernées ? Et je dirais, au-delà, il y a une question qui est venue sur le lien entre la mise en place des schémas départementaux de services aux familles, qui comportent par exemple l'accompagnement à la scolarité, les contrats, les réseaux parentalité, la préscolarisation et la petite enfance, qui sont quand même des sujets très importants pour les PEDT. Et on s'aperçoit qu'il n'y a aucun lien qui est fait localement entre ces politiques. Comment faire en sorte que le PEDT ne soit pas un dispositif de plus et comment travailler cette transversalité?
Alors, moi, je ne répondrai pas sur les PEDT en tant que tels. Je vous laisserai répondre. Je peux répondre sur le programme de réussite éducative, peut-être, puisque, encore une fois, j'imagine que 100% des gens qui sont ici connaissent le programme de réussite éducative. Vous travaillez peut-être avec, ou vous êtes même dedans, peut-être. Et donc, pour nous, il est clair que, quand je dis pour nous, la politique de la ville, c'est vraiment notre programme phare, c'est celui où nous investissons le plus de crédits. Et s'il y a un dispositif dont nous pouvons nous considérer les pilotes, c'est celui-là. Les autres, effectivement, nous sommes partenaires. Vous avez cité les classes, les réap, on pourrait en citer d'autres. La politique de la ville est partenaire, mais ce sont des dispositifs qui sont pilotés soit par le ministère de l'Éducation nationale, soit par le ministère des Affaires sociales, soit par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Comme vous le savez peut-être, l'année 2016 a été riche du point de vue du programme de réussite éducative, puisque nous avons eu d'abord le résultat de deux évaluations qui avaient été lancées les années précédentes et qui, sincèrement, je vais vite, hein, les résultats n'étaient pas très satisfaisants concernant ce programme et où on voyait que les impacts étaient limités. Mais encore une fois, je vais vite et ça demanderait bien évidemment un débat plus long que les quelques propos que je vais tenir là. Mais ce que nous avons vu à travers ça, c'est que le partenariat qui a été mis en place à partir de 2005 autour du programme de réussite éducative, c'est un partenariat qui existait avant, encore une fois, mais qui a été consolidé grâce à ce programme, souvent, et qui a été consolidé, par exemple, au plan institutionnel. Par exemple, avec le fait qu'il y ait un portage type Caisse des écoles, CCAS, le fait qu'il y ait des équipes pluridisciplinaires de soutien qui se réunissent régulièrement, tous les mois, toutes les trois semaines, voilà. Donc ça a permis de consolider le partenariat. Le fait que une école, par exemple, travaillant avec le PRE, signe une convention, voilà, du fait qu'il y ait eu des protocoles de travail interinstitutionnels, tous ces éléments ont permis une consolidation du partenariat, une consolidation au niveau institutionnel. Très clairement, ce que les enquêtes nous ont montré, les évaluations nous ont montré, c'est que ce n'est pas suffisant. Et que si on veut qu'une action telle que le PRE puisse avoir des impacts plus importants auprès des enfants et des familles, il faut que le partenariat descendent, si je puis dire, quand je dis descend, ce n'est pas péjoratif, loin de là, mais se fassent aussi au niveau des acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire des enseignants, au niveau des animateurs, au niveau des référents de parcours du PRE, au niveau des professionnels qui travaillent avec ces enfants, dont certains sont en difficulté. Et on pense que, de ce point de vue-là, si le PRE, par exemple, est organisé à l'échelle intercommunale, puisqu'aujourd'hui, la possibilité en est donnée, ou à l'échelle d'une grande commune, en fait, quand on parle d'intercommunalité ou d'une commune comme Lille, on est dans des échelles, de toute façon, de territoires et d'habitants qui sont très importants. Ce qui est important, surtout, c'est que le référent de parcours et l'enseignant puissent se croiser de façon régulière et puissent faire le point sur ce qui est fait avec l'enfant et si, par exemple, ça a un impact au niveau scolaire. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que nous avons essayé de travailler. Et donc, la nouvelle étape du PRE, on essaie de la concevoir de ce point de vue-là, c'est-à-dire que tous les acteurs s'emparent de ces dispositifs et puissent y agir de façon plus concertée et donc de façon plus efficace. Encore une fois, ce n'est pas pour dire que ce qui a été fait auparavant a été mal fait, ce n'est pas ça le problème, mais la question c'est de dire si on veut qu'une nouvelle étape soit franchie, il faut peut-être qu'on soit plus exigeant. Et alors, au-delà de ça, et là, je nous retourne la question à nous, ces GET et nos partenaires de l'éducation nationale et autres, il ne s'agit pas de dire non plus seulement à un enseignant, à un référent, voyez-vous et faites le point. Il faut peut-être leur dire comment faire le point. C'est-à-dire qu'il faut aussi les aider à comment construire une grille simple qui permette effectivement tous les mois ou deux fois par trimestre de se voir et de pouvoir se poser les bonnes questions pour voir si les mesures qui sont appliquées sont efficaces. Je ne sais pas si ça répond pleinement à votre question, mais en fait, c'est un peu ma réponse sur un dispositif qui, effectivement, sur lequel moi, je peux répondre, qui est moins le cas, bien sûr,
monsieur, pour
le
PEDT. Monsieur Engel, peut-être vous avez une sur la question qu'a posée Yves Fournel, et moi, je m'autoriserai après à donner une réponse également, le point de vue d'une association.
Quand les PEDT se sont mis en place, avant même qu'on pense à la généralisation, on était sur des territoires où soit on était très avancé et il y avait eu des contrats qui existaient en matière de éducative, enfin en matière de, et qu'il y avait des vraies collaborations qui existaient, soit des communes qui étaient moins avancées, qui n'avaient pas tout ça, on pensait que le PEDT pourrait leur servir pour aller plus loin. Ce qu'on peut voir, c'est que concrètement, ce qui s'est passé, c'est que on avait auparavant, si on prend les groupes d'appui départementaux dont je vous parlais, on avait essentiellement les services jeunesse et sport et l'éducation nationale qui intervenaient. Dans un second temps, la CAF est devenue partie prenante et la CAF est maintenant signataire des PEDT. Donc la CAF qui a une vision encore plus large en termes d'accompagnement d'âge que le seul enfant scolarisé. La CAF est partie prenante également et de plus en plus, on voit les départements, enfin on appelle ça maintenant les conseils départementaux, qui sont partie prenante également sur ces questions parce qu'il y a la question du transport, enfin pas uniquement, mais aussi, et la question parce que c'est un acteur social de premier plan. Donc on a quand même un certain nombre d'acteurs qui dépassent le cadre uniquement du périscolaire et du scolaire et ça nous paraît complètement essentiel. Pour autant, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que moi, je suis chargé d'un département qui a aussi dans son escarcelle la question de l'extrascolaire, des colos. Et je ne vous cache pas que quand on va voir les maires au salon des maires et qu'on leur dit « N'oubliez pas, il y a les colos », ils nous disent « Pitié, on a déjà le périscolaire, on essaye de faire en sorte d'accompagner tout ça ». Mais je dis « Ok, mais ne laissez pas tomber les colos » parce que globalement, on est sur un champ éducatif global. Et c'est l'articulation de ces différents champs et l'articulation de ces différents acteurs qui feront que ça marchera.
Je l'évoquais tout à l'heure, hein, le fait que le développement des politiques éducatives locales et du périscolaire pouvait avoir eu des incidences sur les séjours de découverte à l'école ou l'écolo. Non, mais par rapport à la question posée par Yves Fournel, je pense qu'il y a une réponse évidente. Dès l'instant où on territorialise les politiques publiques, dès l'instant où on mobilise les collectivités locales pour les mettre en œuvre, L'espace où doit se construire la globalité, c'est bien l'espace de la collectivité locale, à partir du dispositif le plus généraliste. Ce que je veux dire par là, c'est pas une question d'un département ministériel qu'en mange un autre. C'est une question que la cohérence territoriale, la cohérence entre dispositifs, elle ne peut être construite qu'à partir du territoire et dans une vision globale de ce qui se fait. Donc j'ai envie de dire qu'il faut passer du PEDT au PEG, projet éducatif global, certains l'ont dit avant moi, hein, et s'assurer que finalement tout dispositif qui a un contenu éducatif, le PRE, puisse à un moment être mis en articulation, puisque le PRE va permettre de répondre à des problématiques éducatives particulières d'un certain nombre d'enfants, et on va traiter de cette manière-là le problème des inégalités, par exemple. Parce que les réap vont permettre de répondre à un certain nombre de questions plus particulières avec pour les familles, etc. etc. Donc c'est, je pense, vers cela qu'il faudrait tendre. J'avais peut-être une question d'interrogation. On accueille Michel Lussault. Bonjour. D'interrogation qui remonte de notre, enfin de mon réseau actuellement, mais aussi des réseaux associatifs. Sur les incidences de la loi NOTRe ou d'un certain nombre d'éléments de la loi NOTRe, notamment sur les communes nouvelles, les nouvelles intercommunalités, etc., etc., et les freins qui apparaissent quelquefois parce qu'une nouvelle intercommunalité n'aurait pas la compétence périscolaire, et donc on voit tout un pan de territoire qui, du jour au lendemain, ne sait plus comment agir sur cette question-là. Est-ce que vous avez un travail, une réflexion, alors je ne sais pas du côté de jeunesse et sport ou du côté des territoires, pour s'assurer qu'on ne casse pas des dynamiques qui existent aujourd'hui sur les territoires.
Alors, aujourd'hui, à ce type de questions, on n'a pas une réponse, ça c'est clair. Voilà, sinon ça se saurait. Et j'y reviens, excusez-moi, mais c'est pour ça que l'on a voulu donner cette possibilité de portage intercommunal du PRE pour que, en fait, ce soit le local qui choisisse quelle est la solution la mieux adaptée. Voilà, d'abord, il faut des consensus politiques. Et vous savez, vous aussi bien que moi, que ces consensus politiques ne se trouvent pas comme ça automatiquement. Voilà, donc il n'est pas question... Alors, de temps en temps, l'État peut essayer de forcer un peu la main, hein, c'est ce qu'il fait de temps en temps, mais en même temps, avec les crédits à la clé pour que les gens mettent en place des projets communs, mais en même temps, on ne peut pas faire sans les... D'ailleurs, une petite incidence, hein, il y a eu une question auparavant sur des municipalités qui ne veulent pas mettre en place, par exemple, des politiques type PRE, etc. Alors, ça s'est trouvé déjà, hein, depuis une dizaine d'années, dans des communes du sud de la France. Donc, comme vous le savez, le PRE il peut être porté par le CCAS ou la Caisse des écoles, donc communale, hein, de toute façon. Si la commune ne veut pas, c'est pas possible. Donc, il y a des PRE qui ont été portés par des EPLE, les établissements publics de l'enseignement secondaire. Voilà, donc, juridiquement, il n'y a pas de souci, ça peut se faire, sauf que ça n'a pas marché. Sauf que ça n'a pas marché parce que, bien évidemment, voilà, les crédits peuvent arriver, une certaine mobilisation peut se faire, mais si la mobilisation n'est pas plus large et si le pilotage n'est pas assuré, ces dispositifs partenariats soit ne fonctionnent pas, soit ne fonctionnent qu'à moitié ou au quart de ce qu'ils peuvent faire. Et donc, en fin de compte, ce sont les acteurs qui eux-mêmes s'essoufflent et qui arrêtent. Non, je crois que de ce point de vue-là... Pour répondre par rapport à la loi NOTRe, par rapport à la question du décrochage scolaire, par rapport à beaucoup de questions qui sont celles du champ éducatif, je ne pense pas que l'on aura un modèle unique qui va s'appliquer dans l'année qui vient. Je pense qu'on va encore prendre un temps de bilan, et notamment sur la loi NOTRe, qui elle est appliquée depuis encore moins longtemps que tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. Et que lorsque vraiment l'État lui-même aura fait le bilan et un peu plus même l'évaluation de sa capacité de portage à tel ou tel échelon et que les communes elles-mêmes auront vu ce que cela a pu impacter par rapport à leur capacité d'action, je pense qu'on est, et je ne suis pas un expert de cette question globalement, on est quand même sur un temps encore un tout petit peu long de ce bilan-là et de savoir comment, entre l'échelle intercommunale, l'échelle communale, et certains parlent des bassins, bassins d'éducation, bassins d'emploi, et puis on peut passer après à l'échelon départemental, qui n'est pas la même chose dans la région Île-de-France que dans les autres régions. Voilà, et puis les grandes régions telles qu'elles ont été dessinées, je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait une seule application qui puisse être faite.
Ma question n'était pas celle-là. Hein. Ma question était que dans la phase intermédiaire justement de la nouvelle construction des territoires, si on appelle cela comme cela, il n'y ait pas de frein à la poursuite de politiques éducatives qui sont développées. Enfin, moi, je pourrais citer quelques exemples de communes qui, rejoignant des intercommunalités qui n'a pas pris cette compétence ou une partie de la compétence, se trouvent freinées dans la poursuite de leur politique éducative. Alors, je plaide pas pour un modèle unique. Je dis que dans la phase intermédiaire, il faut être attentif à ces questions-là. Je ne sais pas d'ailleurs si on regarde ça du côté de... Je dis toujours jeunesse et sport, moi oui, je suis désolé.
J'entends bien, je me sens concerné. On avait eu déjà cette question avec les changements de majorité dans les municipalités. Et quand de nouveaux maires ont été nommés, on a eu des questionnements sur le transfert de compétences, des maires qui ont dit... Moi, je ne suis pas de la même couleur politique que globalement l'intercommunalité et je souhaite reprendre la compétence périscolaire. Ça s'est fait à la marge, mais la question s'est posée à ce moment-là déjà. Actuellement, les questions qu'on a, c'est pas des questions dans ce que je peux connaître. Hein. C'est pas des questions sur la remise en cause de ce qui est proposé en termes de qualité de service. C'est plutôt de la complexité et de la transition que nos services devront accompagner pendant quelque temps. C'est-à-dire concrètement, c'est vrai que des intercommunalités plus importantes avec des services à assurer et des familles qui souhaitent toujours la même qualité de service. Alors même, enfin, la question du changement de personnalité juridique de la structure publique, c'est pas le problème des familles, je le comprends. Donc c'est plutôt ces questions-là. Comment faire pour accompagner et pour qu'il n'y ait pas une transition qui complique les choses et qui permette d'assurer le contrôle de l'honorabilité des personnes qui interviennent, le cadre éducatif de qualité. Voilà. Donc je peux pas vous dire... Enfin, les retours que j'ai, ce n'est pas des retours angoissés, mais il faut être vigilant.
Très bien, merci. Je vérifie avec le maître de cérémonie, mais je pense qu'on va passer, sauf s'il y avait une question, un mot de conclusion.
Oui, enfin de conclusion, peut-être un élément auquel j'ai oublié de répondre, c'est la question effectivement de la participation des habitants, hein, parce que c'est un point important et sur ce champ-là, la politique de la ville a beaucoup investi, hein, vous le savez, dans les conseils de quartier et dans différentes actions. Tables de quartier, etc., qui permettent aux habitants de s'exprimer. De notre côté, éducation, nous essayons, via ces conseils de quartier ou via les actions portées par le collectif d'associations 1001 Territoires, de soutenir ces actions. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que la jonction n'est pas tout à fait faite. Voilà. Donc, aujourd'hui, les conseils de quartier, j'ai l'impression, notamment, sont encore dans l'idée, vous voyez, des projets urbains, un petit peu, des projets d'équipement. C'est plus facile, hein, de se saisir de ce genre de questions, puisque ça implique un changement un peu rapide du quartier, et donc donner son avis, peser sur tel ou tel projet. Sur la question éducative, on a un champ, hein, excusez-moi, c'est un peu bateau de dire ça comme ça, mais de fait, on a, entre ces différents moyens, ces différentes actions qui ont été mises en place, que ce soit au niveau des associations ou que ce soit au niveau de l'État avec des conseils de quartier, il y a probablement moyen de travailler davantage. Dernier point juste, et puis je m'arrêterai là, avec Rebecca Jourdain qui est ici, on a pas mal travaillé sur des documents volets éducatifs du contrat de ville. Alors voilà, à notre échelle, à nous, qu'on aura l'occasion de donner dans les semaines et mois à venir. Il y a une convention, hein, peut-être, qui sera signée avec l'Éducation nationale, à nouveau, qui renouvellera la convention précédente. Et donc, voilà, sur le volet éducatif, on sent bien qu'effectivement, il y a aussi la volonté de s'emparer de façon plus approfondie de cette affaire et on va essayer de proposer des outils.
Marc Engel, vous avez deux mots pour conclure ou comme vous voulez, non? Donc on vient de découvrir qu'il y avait des ressources au Cégep qui allaient rejoindre le nouveau site PEDT. Non, moi je fais les synthèses et je mets en relation, je veux dire, puisque je crois que c'était ça l'idée de vous faire venir aujourd'hui.